Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Est-ce que vous êtes prêts à aller dans la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va pencher nos têtes, mais avant de pencher nos têtes, on va relever nos têtes. Et je veux juste vous encourager ce matin, avec le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur, je veux vraiment vous encourager à rester engagé spirituellement. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Restez avec moi. Est-ce que c'est possible de rester avec moi? Je sais, des fois, on peut rêver au Big Mac, on peut rêver à la grosse poutine, on peut rêver à ces choses-là. Mais ce matin, qu'est-ce que je vais vous emmener de la part de Dieu? Je crois que c'est le message le plus important pour les enfants de Dieu après avoir entendu le message du salut. C'est vraiment, je dis ça parce que c'est le contenu du message, c'est vraiment la révélation de la nouvelle alliance qu'on a besoin de saisir. Et quand on reçoit ça, je peux vous dire, c'est la plus grande chose qu'on peut comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Alors, si vous faites un check-out et vous partez, vous êtes au McDonald's pendant que je prêche, vous allez passer à côté de quelque chose, pas parce que c'est moi qui le prêche, mais c'est parce que c'est super important. Dites à votre voisin, c'est super important. Et ma prière, savez-vous, je peux prêcher un message comme ça, et le danger, et même avant de prêcher ce message-là, j'avais comme une certaine crainte. Je me disais, je veux pas que les gens entendent ce message-là, que ça rentre dans l'oreille et que ça soit pas applicable ou qu'ils comprennent pas. Je veux pas que ça soit abstrait comme enseignement. Parce que il y a un danger, ça peut l'être. Je peux vous enseigner ça, puis vous allez dire, ah, je comprends ça, je connais tout ça. Et le danger, c'est de penser qu'on comprend quelque chose et ne pas vraiment le comprendre. Parce que là, on peut pas vraiment vivre la vérité. Alors, même si vous vous dites pendant un temps, pendant que je parle, je comprends ça. Ça fait 25 ans que je comprends ça. Ça se peut que vous ne compreniez pas et vous pensez que vous comprenez. Savez-vous ça? C'est possible. Alors, on va rester dans cette attitude-là d'apprentissage tout au long. Et je dis gloire à Dieu pour ça. Et hier soir, je me suis couché assez tard finalement. Je pensais que j'avais fini mon message, mais en priant, le Seigneur m'a donné une vision très rapidement. C'était juste un flash comme ça quand je priais. Et la vision que j'ai eue, c'était en rapport avec la vision 2010 que le Seigneur m'avait donnée le 25 décembre. Mais c'était différent. Et qu'est-ce que j'ai vu? Le mot, c'est girouette, je crois. Hein? C'est ça qu'on m'a dit, girouette. Qu'est-ce que j'ai vu? C'était juste une girouette, comme un autre mot, je pensais, c'est pas un moulin, là, mais c'est genre comme ça. C'est une girouette qui démontre le vent, là, la direction du vent, et ça nous démontre qu'il y a un vent qui s'en vient. Et comme j'étais en train de prier, le Seigneur m'a juste donné un flash de ça. Et en rapport avec le message Vision 2010, qu'est-ce que ça me démontrait? C'est que maintenant, ça y est, le vent s'en vient. Et le vent, ça peut symboliser deux choses. On peut avoir le côté positif du vent et le côté négatif. Le côté positif, le vent de l'esprit qui s'en vient allumer les flammes de feu qui vient souffler sur nos flammes déjà là dans nos cœurs. Gloire à Dieu pour ça. Mais l'autre côté, on peut voir le vent dans le monde. C'est quoi que ça peut faire des fois? Un mauvais vent, là, ça peut amener une destruction. Et comme j'enseignais l'autre fois sur les semences qu'on va avoir semées, on peut semer dans la chair et récolter la mort, ou on peut semer dans l'esprit et récolter la vie, n'est-ce pas? Alors, j'ai parlé comment c'est important de semer dans les choses de Dieu. Et on peut prêcher sur des semences comme ça, mais les gens peuvent aussi dire, ben, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut vraiment faire pour semer dans les choses de Dieu? Comment est-ce qu'on peut vraiment faire récolter les choses de l'Esprit? Et aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus, on va se pencher là-dessus. Mais je crois que le Seigneur m'a donné ça hier, juste pour qu'on puisse comprendre la saison dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que maintenant, c'est le temps, le vent s'en vient. Et marquez ces paroles, le vent s'en vient. Et une des choses que le Seigneur m'a dit, quand j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, ben, qu'est-ce que tu veux dire par cette vision-là? Le Seigneur m'a dit, va voir psaume 104. Et je vais vous lire le psaume 104, verset 3. Là, ça a été vraiment ma confirmation. Ça dit, il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour ses chars. Pour son char plutôt, il avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers. Je venais de voir ça, ça me donne, va voir psaume 104. J'étais comme, aïe aïe. Je crois que le Seigneur est en train de nous dire, il avance sur les ailes du vent. Et nous, qu'est-ce qu'on veut recevoir? C'est le vent du Saint-Esprit parmi nous. Amen. C'est ça qu'on veut vivre. Mais si on se positionne pas avec le Seigneur Jésus, il y a un autre vent qui s'en vient aussi. Il y a un autre vent et on veut pas être dans ce vent-là. On veut être dans le vent de l'Esprit, dans la couverture de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on fait? Ben, je suis content que vous avez posé la question parce qu'on va y voir. Amen. Alors, penchons nos têtes. Maintenant, on va prier ensemble. Seigneur, on vient devant toi et on te remercie, Seigneur, pour ta parole. On te remercie, Seigneur, pour ta présence parmi nous. On te remercie, Seigneur, parce que tu es encore un Dieu qui parle et tu es encore un Dieu qui nous donne des révélations, Seigneur Dieu. On veut te louer pour ça, parce que tu nous laisses pas tout seul, mais ton esprit est ici pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin qu'on doit suivre. Et Seigneur, crée en nous le désir, le vouloir et le faire, Seigneur, de dire oui, d'être obéissant. On te loue, Seigneur, et on élève ton nom, car toi seul, Seigneur, tu es digne d'être élevé. Toi seul, Seigneur, tu es digne de louange. Il n'y a aucun nom d'être humain, aucune église qui est digne, mais toi, Seigneur, tu es digne d'être loué, d'être couronné parmi nous. Et on t'aime, Seigneur, on veut te glorifier. On prie vraiment, Seigneur, que ce matin, tu nous donnes des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Et Seigneur, je cède ma bouche pour ta bouche, pour tes paroles, Seigneur, et je prie vraiment que ce matin soit un matin différent, qu'on quitte cette place étant positionné en toi et renforcé dans la foi pour les choses qui s'en viennent. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, le thème de l'enseignement, c'est la nature divine. Et je vais vous inviter à tourner dans 2 Pierre, chapitre 1, et on va aller au verset 3. 2 Pierre, chapitre 1. Et le verset 3, il est écrit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » On l'a lu une fois, on va le relire encore. Amen. Comme sa divine puissance. Combien de personnes ici vous aimeriez être revêtues de la puissance de Dieu? Amen. Il y en a quelques-uns parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Vous voulez vivre dans le cycle de la vie, la piété, la sainteté. Comment est-ce que vous allez y arriver? La Bible nous dit que c'est par sa divine puissance. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si vous essayez d'arriver à cette place dans votre vie chrétienne où vous avez la vie, la vraie vie en abondance et la sainteté, la piété, la seule façon que vous allez l'avoir, c'est par sa divine puissance. Amen. Donc, cette puissance, elle est disponible pour nous. C'est pas une grande révélation à date, vous comprenez? La divine puissance de Dieu, elle est disponible pour nous. Amen. Et comment est-ce qu'on peut faire pour l'avoir? Bien, heureusement, Dieu nous le dit encore. Il dit « au moyen de la connaissance de celui ». C'est qui ça? Jésus. « Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa précieuse, par sa propre gloire et par sa vertu ». Et le mot « vertu » ici peut être compris même comme étant une force agissante, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, Dieu ici nous parle de la divine puissance et d'une nature divine qui est disponible pour l'enfant de Dieu et que l'enfant de Dieu a, certainement. Okay, nous avons cette nature divine. Lorsque nous sommes sauvés, nous donnons notre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient nous habiter et nous avons la divine nature en dedans de nous. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est beau, c'est merveilleux de croire ça. C'est beau et merveilleux de croire aussi qu'on va vivre un réveil dans notre génération, qu'on va voir la province du Québec impactée. C'est merveilleux de croire aux miracles, aux signes, aux prodiges, aux grandes choses que le Seigneur nous promet dans sa parole. C'est bien et merveilleux, mais nous ne pouvons pas y arriver sans avoir la révélation de la nature divine qui est en nous. Et c'est la chose super importante en tant qu'enfant de Dieu qu'on puisse avoir la révélation de cette nature divine qui nous habite. Sans cette révélation-là, on va essayer de marcher dans l'esprit. On va essayer d'avoir la victoire. On va vivre une vie chrétienne frustrée et dans un combat perpétuel parce qu'on va être dans une marche. On va essayer de réussir notre vie chrétienne. Et combien de chrétiens sont frustrés et trouvent ça difficile de marcher avec le Seigneur Jésus parce qu'ils vont essayer de leur propre force à accomplir le travail de Dieu. Et je sais pas, peut-être vous êtes là, peut-être vous êtes dans cette place-là dans votre vie où vous dites, ben ça fait des années que je sers le Seigneur, que j'aime Dieu, mais on dirait j'ai pas la victoire sur telle ou telle affaire dans ma vie. J'aimerais donc ça avoir la victoire sur cette chose-là, mais j'essaie et j'arrive pas à y arriver. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu vous dit, arrêtez d'essayer. Arrêtez d'essayer de vivre dans la chair et accomplir les désirs de l'esprit. Et une fois qu'on est sauvé, vous savez-vous, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et c'est la façon qu'on rentre dans cette relation d'intimité avec Dieu, c'est par la grâce, une faveur non méritée, par la foi, mais tout d'un coup, une fois qu'on est sauvé, souvent le cas, les gens ne nous disent pas comment vivre la vie chrétienne victorieusement. On n'a pas l'enseignement après. On est sauvé, c'est merveilleux. En route pour le ciel, on a été sauvé par la grâce, par une faveur surnaturelle et on reçoit la puissance de Dieu. Mais c'est comme si après on dit, maintenant, performe. T'as pas performé pour entrer dans le salut, mais maintenant, une fois que t'es sauvé, performe. Essaye de vivre correctement. Essaye d'avoir des victoires. Et avec Dieu, oui, avec Dieu, on va faire des exploits, mais en réalité, on est en train de mettre toute la responsabilité sur tes épaules. Mais je crois qu'est-ce qu'on doit avoir vraiment comme révélation aujourd'hui, c'est que Dieu nous a donné une nature divine qui est surnaturelle. Et à cause de cette nature divine, on peut faire des exploits et on ne vit plus la même façon qu'on vivait auparavant, avant d'être sauvé. Et vous savez, des fois, qu'est-ce qui brise mon cœur? C'est quand on voit des grands prédicateurs, qu'on voit à la télévision, puis on se dit, waouh, on est béni par lui. Mais en dedans, on le sait pas, mais il vit un combat dans sa chair. Et plus tard, on découvre qu'il chute moralement. Et là, les gens vont dire, ah, mais cette personne-là ne se consacrait pas. C'est une personne qui vivait dans la chair, blablabla. Et on accuse la personne, on va juger la personne. On va dire, ben c'est un hypocrite tout au long. Mais ça se peut très bien que cet homme de Dieu avait compris le message de la grâce, le message de la puissance de Dieu pour être sauvé, mais pas assez pour vivre victorieusement. Et toute sa vie, sa foi était concentrée sur sa performance chrétienne. Il se disait, si je lis ma Bible plus, là, je vais avoir la victoire. Si je prie plus, là, je vais avoir la victoire. Si je fais plus de réunions, on va multiplier le nombre de réunions et là, finalement, je vais avoir la victoire. Et c'est bien de faire des choses spirituelles, c'est bien de lire la Bible, c'est bien de prier, c'est bien de faire toutes ces choses. Mais quand notre foi est déplacée de l'œuvre de la croix et on la met sur notre performance personnelle, on ne peut pas vivre de victoire parce qu'on devient la source de notre propre victoire. Comprenez-vous qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Et l'affaire est, c'est que c'est un piège de l'ennemi parce qu'on est actif pour Dieu. Hey, on dit, ben là, je suis en train de prier, je suis en train de lire ma Bible. Comment ça, j'ai pas la victoire? Pourtant, je fais toutes ces choses-là. C'est parce que c'est une question de votre foi. Votre foi n'est plus dans la source de votre victoire. Votre foi a été transférée dans votre performance. Et quand et aussi longtemps que notre foi est en nous, on ne réussit pas. Et vous allez voir pourquoi. Alors ce matin, on reste réveillé, hein, tout le monde, vous êtes tous là. Amen. Donc, une connaissance révolutionnaire qu'on a besoin de découvrir, c'est le message de l'Église ce matin. En fait, le message de la nature divine, et qu'est-ce que ça veut dire vraiment, là? Ça devrait être le message numéro un de nos Églises. Vous allez dire, ah oui, pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'on va prêcher toujours la même chose? Certainement pas. Je pense qu'il faut varier le menu, n'est-ce pas? Mais l'affaire est, c'est que dans ce menu-là, la base, l'ingrédient numéro un, c'est cette révélation-là. C'est cette révélation-là. Donc, on peut voir, je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 2. Ici, on voit le désir de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un grand homme de Dieu. Par lui, nous avons reçu la révélation de la nouvelle alliance. Nous comprenons que Moïse, c'était l'homme de Dieu, le prophète choisi par Dieu pour nous donner le message de la loi, ou la loi tout court. Nous comprenons ça. Et Dieu a choisi l'apôtre Paul pour nous livrer la révélation de la nouvelle alliance. Ici, on voit un désir de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 2. Il est écrit: « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'apôtre Paul dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Mais on se dit, mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul voulait entendre, et pourquoi est-ce qu'il voulait livrer ce message-là, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Pourquoi que c'est important? Et si c'était important pour l'apôtre Paul, est-ce que ça devrait être important pour nos églises ici au Québec? À quelque part, la révélation de Jésus-Christ crucifié, c'est l'élément qu'on a besoin pour vivre des victoires. Et si vous vous dites, ben, je comprends pas, c'est correct, parce que je crois que vous allez comprendre à la fin de ce message. Amen. Mais on peut établir premièrement que c'est un message important, c'était le message prioritaire de l'apôtre Paul. Et ensuite, on voit dans Deutéronome, verset 21, chapitre 21, verset 23, en parlant de la crucifixion, on va voir ici un petit peu de quoi on se réfère quand on parle de la crucifixion. Vous connaissez déjà l'œuvre de la croix. Vous savez déjà que Jésus est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. On comprend ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre pratique, dans notre vie à tous les jours? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire l'œuvre de la croix pour vous aujourd'hui? La majorité des chrétiens pensent, bien, c'est la façon dont j'ai été sauvé. Hein, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Ben oui, je suis sauvé à cause Jésus est allé mourir à la croix. Et on pense de comprendre l'œuvre de la croix. Et ça, c'est la plus grande chose, l'erreur monumentale dans le corps de Christ, c'est penser qu'on comprend quelque chose qu'on ne comprend pas. Et je peux vous dire, je connais un homme de Dieu qui était un grand homme de Dieu, qui remplissait des stades olympiques et qui a chuté moralement. Et il a dit que ça lui a pris 40 ans de prédication là, avant de saisir la vérité que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, si ce matin, on peut avoir l'humilité puis dire, peut-être j'ai quelque chose à apprendre, peut-être on va apprendre et peut-être on va vivre des victoires qu'on n'a jamais expérimentées dans nos vies. Parce que moi, je suis convaincu que Dieu ne veut pas que son Église vive dans les combats. Je suis convaincu que Dieu veut pas que les chrétiens soient toujours tiraillés par en dedans et vivent des combats avec toutes sortes de péchés, mais Dieu veut son Église libre, non seulement à dire, OK, j'ai plus ce problème-là avec ce péché-là, mais non seulement est-ce que je suis libre, mais maintenant je suis engagé pour les choses de Dieu. Là, je marche, je me consacre, et là, au lieu de juste maintenir ma vie chrétienne, maintenant, je fais des progrès et des sauts et je m'en vais de gloire en gloire. Ça, c'est le désir de Dieu, qu'on puisse aller de gloire en gloire. Et si tout le monde vit des victoires au lieu de vivre toujours des combats, devinez qu'est-ce qui va se passer? Les gens autour de nous vont dire, il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de toi, il y a eu un changement, c'est quoi que t'as, je veux l'avoir moi aussi. Et là, on va voir un impact dans notre société. Amen. Donc, la crucifixion, Deutéronome 21-23, ça dit, « Celui qui est pendu, en parlant pendu au bois, est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Donc, quand les Juifs voyaient une personne crucifiée, pour eux, c'était une personne maudite. Vous comprenez? Dans Galates 3, verset 13, ça dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit à quiconque est pendu au bois. » Encore une fois, on parle de la malédiction. Et nous comprenons que Jésus a porté la malédiction sur lui, n'est-ce pas? Il a porté la malédiction sur lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour pas que ce soit quelque chose d'abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire que quand Jésus a porté cette malédiction pour vous, c'est afin que vous puissiez vivre la bénédiction. La bénédiction. Mais c'est quoi cette bénédiction-là? Est-ce que c'est d'avoir une Cadillac? Ben, si Dieu veut vous en donner, correct. C'est correct. Mais c'est pas ça, le summum de la bénédiction. Le summum de la bénédiction, c'est une Volkswagen. Non, c'est pas ça. Non, mais le summum de la bénédiction, c'est d'être libre. C'est la vraie liberté. Qu'on pense des fois qu'on ne saisit pas parce qu'on se contente. On se contente avec le combat. pensant que c'est correct et que c'est normal. Pourquoi que c'est normal? Ben, tous mes frères et mes sœurs dans le Seigneur vivent des combats, donc ça devrait être normal d'en vivre. Et on se satisfait là-dedans. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le cycle de la mort a été détrôné. Et aujourd'hui, vous pouvez régner dans cette vie. Et je vais vous inviter à tourner dans Romains chapitre 5, verset 17. Romains chapitre 5, verset 17. Ça nous parle ici, si par l'offense d'un seul, en parlant d'Adam, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Comprenez-vous ici, la mort régnait, mais à cause de Jésus-Christ, maintenant c'est la vie et la vie divine en vous qui est supposée de régner. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, d'abord, on a un problème? Une des choses qu'on doit comprendre, c'est qu'on a deux natures en dedans de nous. Le moment qu'on est un enfant de Dieu, on reçoit la nature divine qui vient en nous par le Saint-Esprit. Mais l'erreur qu'on fait, et des fois c'est par ignorance, c'est qu'on s'imagine que la nature pécheresse a évaporé le moment qu'on est devenu un enfant de Dieu. Et on va voir que c'est faux, et si on croit ça, on va avoir de la misère pour toute notre vie chrétienne, parce qu'on n'apprendra pas à régner sur cette nature pécheresse-là. Et si on peut avoir la révélation aujourd'hui, ça va changer nos vies. Mais quand on réalise, la nature pécheresse est encore là, mais la nature divine est là pour gouverner, et la domination de la nature charnelle a été détrônée. Ça va être super important, vous allez voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La lutte de l'apôtre Paul, un grand homme de Dieu, mais pourtant, il vivait des choses difficiles dans sa vie chrétienne. Et on va voir ensemble, je vais vous inviter à tourner dans Romains chapitre 7 et le verset 14. Romains chapitre 7. Et ce matin, en tout cas, moi, je prie. Et je priais avant, j'ai dit, Seigneur, livrer un message comme ça, je trouve ça un défi, parce que souvent, ça peut être un message théologique, et les gens quittent la réunion. Ils sont là en corps physique, mais en esprit, souvent, ils sont pas là. Le moment qu'on devient un petit peu moyennement théologique, mais moi, ce matin, j'ai la foi que vous restez avec moi. Amen. Vous restez avec moi, vous comprenez au nom de Jésus. Parce que l'ennemi, savez-vous qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vous endormir ce matin. Il veut vous faire dire, ouais. Vas-tu faire super size ou pas super size aujourd'hui? Mais on rend toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus aujourd'hui et on va voir, l'apôtre Paul avait une lutte dans sa vie chrétienne. OK? On voit dans Romains chapitre 7, verset 14, il vivait une lutte. Ça dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, l'apôtre Paul y parle ici, mais moi, au verset 14 de Romains chapitre 7, moi je suis charnel, vendu au péché. Un homme de Dieu dit de lui-même qu'il était charnel en lui-même et vendu au péché. Est-ce que ça nous démontre ici beaucoup de victoire, beaucoup de liberté? Non, ça nous démontre de l'esclavage ici. Romains chapitre 7, maintenant, verset 18 à 19. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Remarquez les paroles. Il dit, je veux faire le bien. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Ça veut dire, c'est incapable. Il est incapable de faire le bien dans sa chair. Mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Est-ce que vous connaissez des chrétiens ou peut-être est-ce que c'est vous aujourd'hui que vous aimeriez faire le bien mais vous êtes pris avec quelque chose qui vous lie puis vous vous dites je veux faire le bien mais je suis pas capable. Est-ce que ça se peut que c'est vous que vous dites je suis pas capable de faire le bien? Ça se peut. Maintenant, il y en a qui vont dire oui mais ça c'est l'apôtre Paul avant qu'il soit sauvé. C'est pas un homme de Dieu, c'est pas... Non, il se réfère à lui avant d'être sauvé. Regardez le verset 22. Verset 22. Ça, je vais vous remettre en question. J'étais au séminaire, je me souviens, on avait discuté ce texte-là. Est-ce que ici c'est vraiment un enfant de Dieu qui est pris avec des problèmes, des péchés, ou c'est un homme pas converti? Regardez comment il parle au verset 22. Il dit, « Je prends plaisir à la loi de Dieu. » Combien de personnes inconverties connaissez-vous qui prennent plaisir à la loi de Dieu? Connaissez-vous bien des inconvertis dans les bars, dans les discothèques, qui disent « Ah, oh, je veux servir Dieu de tout mon cœur. » Hein? C'est assez rare qu'on trouve ça. Ben, moi, je suis jamais allé dans un bar, je peux pas vous le dire, mais c'est assez rare. Hein? Ça dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ben, l'homme intérieur qui a pas été régénéré par le Saint-Esprit a pas le désir de faire plaisir à Dieu. Il y a pas ce désir-là. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voyez-vous, ici, on parle d'une réalité chez l'apôtre Paul. Il veut faire la volonté de Dieu, mais à quelque part, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans sa vie et il est captif encore au péché. Donc, là, on peut aller voir Romains chapitre 6. Là, il pose la question, que dirions-nous donc, verset 1? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc, dans certains milieux, on va dire, ben, t'es pas capable de t'empêcher. Vis-le ton péché, c'est normal, c'est tout à fait normal de vivre des péchés, de vivre dans le péché, c'est tout à fait normal, on le vit tous, et puis tu fais juste te repentir, et Dieu est fidèle et juste de vous pardonner de tous vos péchés, inquiète-toi pas. Et c'est vrai, Dieu est fidèle et juste, et il va toujours nous pardonner, mais est-ce que c'est summum de ce que Dieu en réserve pour nous, c'est de juste dire, de se contenter de vivre toujours dans le péché jusqu'à temps qu'on meure? Ou est-ce qu'il y a une façon d'être libéré de ça? Oui, il y a une façon. Je vous donne le punch tout de suite. Le punch, c'est que oui, on peut être libéré. La bonne nouvelle, prochaine chose que je vais vous faire comprendre, la bonne nouvelle, c'est qu'une des choses qu'on doit comprendre, ok, dans les textes, dans Romains 6, 7 et 8, quand nous retrouvons le mot « péché », ça se réfère pas à un geste, une chose mauvaise, ça se réfère à la nature pécheresse. Il y a l'article avant le mot péché et ça se réfère littéralement à la nature pécheresse qui est en dedans de la personne. Alors, quand vous allez relire Romains 6, 7 et 8 et vous voyez le mot péché, vous pouvez remplacer ça par nature pécheresse. OK? Super important. Là, je vais le lire. Romains chapitre 6, verset 14, ça dit, car le péché ou car la nature pécheresse n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il nous donne une révélation ici. Il dit, écoutez, il dit, le péché, la nature pécheresse qui est là contre vous n'a pas de pouvoir sur vous. Et on peut se dire, ben, l'apôtre Paul, on peut voir évidemment qu'il y avait deux natures en lui parce que il voulait faire le bien, ça c'est la nature divine, mais la nature charnelle voulait faire le mal. Il y avait quelque part, il y avait un tiraillement, n'est-ce pas? Il y avait un combat, il y a de quoi qui se passait là. Et de dire qu'on n'a plus de nature charnelle ou pécheresse, qu'elle a évaporé, qu'on a été sauvé, ça va nous mener dans une mauvaise direction, ça va nous rendre dans le péché, parce qu'on va même pas savoir qu'on doit gouverner et dominer cette chose-là. Vous savez, être ignorant, ça nous aidera pas. Faut savoir pour savoir comment vivre la vie chrétienne. Donc, faut comprendre deux choses. Il y a deux natures qu'on doit examiner ici. La nature spirituelle. Donc, on l'a déjà vu dans 2 Pierre 1, 3 à 4, qui nous parle, vous devenez participant de la nature divine. Vous participez à la nature de Dieu et savez-vous que Dieu est toujours victorieux? Dieu a la puissance, on l'a lu, la puissance pour cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Cette puissance surnaturelle nous donne ce qu'on a besoin pour marcher sur le péché et de dominer sur la nature pécheresse. OK, il y a cette nature-là. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit, « Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre esprit a été régénéré. Nous avons notre esprit qui était autrefois un esprit mort, mort au péché. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu en nous, on était régénéré et on vit maintenant. » Et quand on dit que notre esprit était mort, est-ce que ça veut dire que notre esprit n'existait pas? Non, notre esprit était là, sauf qu'on était séparé, déconnecté de Dieu. On était mort dans nos péchés. Amen. On était mort, séparé. Mais quand le Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter nos cœurs, on était régénéré et nous a donné la vie divine en dedans de nous. C'est quelque chose de merveilleux, faut comprendre. On a la vie de Dieu en dedans de nous. Si Dieu habite en nous, comment ça de bord, on a des combats? Mais semble, Dieu est beaucoup plus grand que le diable et de la chair. Comment ça, il y a ces combats-là encore? Bien, parce qu'on n'a pas pris notre autorité sur la chair encore. Écoutez bien, donc on a la nature spirituelle et il y a la nature charnelle. Il y en a, et des prédicateurs qui disent, ben moi, le moment que j'ai été sauvé, Dieu a enlevé la nature pécheresse et je ne connais plus de péché, je ne pêche plus, ça fait 25 ans que je n'ai pas commis de péché, je marche dans l'humilité à tous les jours de ma vie, et je dis gloire à Dieu parce que je ne pêche plus, hallelujah. Bon, il y a des gens, j'en ai entendu prêcher comme ça. Est-ce que c'est vrai, ça? Puis savez-vous, c'est pas votre opinion. Vous avez bien répondu. 1 Jean 1:8, ça dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, et dans ce texte, encore une fois, ça ne parle pas juste un geste, une action, ça nous parle de la nature. Ça dit, si nous disons que nous n'avons pas la nature pécheresse, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Wow! Donc, si on dit on n'a plus de péché, on n'a plus la nature pécheresse, que maintenant on est libre puis on n'a plus de combat, il y a une façon de comprendre les choses. Romains 5, verset 21, ça dit « Comme le péché ou comme la nature pécheresse a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et là, qu'est-ce que je veux vous aider à comprendre et que Dieu m'aide ce matin? C'est que si on prend une lampe, par exemple, ok, on prend la lampe, et autrefois, elles étaient branchées dans le mur. Et on peut voir, il y a une corde d'extension, bien, quand elle est branchée, elle est connectée, n'est-ce pas? Et il y a de la lumière qui sort. Hein? On peut voir la lumière de la lampe. Mais quand on était sauvés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette lampe qui peut représenter notre nature pécheresse, qu'est-ce que Jésus a fait? C'est qu'il a débranché le courant à votre nature pécheresse. Votre nature pécheresse, le courant a été coupé. Il y a eu une coupure, une séparation, et Dieu dit que vous êtes mort au péché. Ça ne veut pas dire que la nature n'existe plus, là. Non, elle existe encore là, sauf elle est dormante. Elle est dormante. Et si vous ne vous rattachez pas à cette nature pécheresse-là, vous ne vivrez pas dans le péché. J'essaie de le réexpliquer. Vous étiez branchés au péché. Mais quand vous êtes sauvés, la Bible nous dit que nous sommes morts avec Christ. Savez-vous ça? Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, vous avez été crucifié avec Jésus. Saviez-vous ça? Le Joel Spinks pécheur a été crucifié à la croix. Il a été enseveli, il était enterré aussi. Et à cause de ma foi que ce Joel Spinks pécheur-là est mort, il a été déconnecté. Il a été déconnecté, l'esprit en moi a été déconnecté de cette nature pécheresse. Qu'est-ce que j'ai maintenant besoin de réaliser? C'est que la vie divine en moi va faire en sorte que je vais marcher la vie chrétienne dans la sainteté et je ne vivrai pas un combat. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies chrétiennes? C'est que notre nature pécheresse est encore branchée, puis on y a mis un 100 watts, et là, on veut avoir la victoire, et on essaye de la débrancher, mais on peut pas débrancher quelque chose que Jésus a déjà débranché. Je sais pas si vous comprenez ce matin. On va expliquer encore. Mais votre nature, vous avez été coupée. Cette nature pécheresse-là, elle est morte. Elle est morte. Votre nature pécheresse ce matin, elle est morte. Dites, elle est morte. Elle est morte. Donc, vous n'êtes plus une gang de pécheurs. Non plus. Non, vous êtes des saints en Jésus-Christ. Amen. Je suis Joel Spinks, le saint. Vous êtes les saints de l'Éternel. Vous avez été purifiés. Vous avez la nature divine en vous. Mais comment ça? D'abord, il y a des combats spirituels. Comment ça? Bien, c'est parce que, quelque part, on se reconnecte et on n'a pas la révélation que la victoire a été acquise pour nous. Et là, vous allez dire, je comprends ça. Je comprends ça. Gloire à Dieu. On va voir. On va voir. Je vous invite à tourner en Romains chapitre 6, verset 12. On est exhorté ici. Romains chapitre 6, verset 12, ça dit, que le péché ou la nature pécheresse, que la nature pécheresse ne règne donc point dans votre corps mortel. Savez-vous, dans votre chair, la chair est là. Vous marchez, vous vivez dans la chair. Mais pourtant, Dieu nous dit qu'il veut qu'on marche par l'esprit. Mais si, à quelque part, si, admettons, la nature pécheresse n'existait pas, pourquoi est-ce que Dieu nous dirait, ou on aurait l'exhortation, que le péché ou la nature pécheresse ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises? C'est, à quelque part, il y a la possibilité qu'un enfant de Dieu commette des péchés. À quelque part, un enfant de Dieu peut laisser régner cette nature-là. Et voilà le problème. C'est qu'on laisse régner celui qui est supposé d'être mort. Celui qui est déconnecté, on le laisse régner. Et dans Hébreux 12, versets 1 à 2, ça dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bon, c'est merveilleux, on comprend ça, que le péché peut nous envelopper. À quelque part, il y a cette possibilité. Qui d'entre vous a déjà tombé dans le péché après avoir reçu le Seigneur Jésus dans votre vie? Il y en a quelques-uns. Alléluia. Quelques-uns qui ne sont pas menteurs. Nous avons tous chuté après la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce qu'on a besoin après? C'est de savoir comment maintenant vivre dans la victoire. Et la révélation que Dieu veut qu'on puisse avoir, c'est dans Galates 5, 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, c'est ça la solution. Marchez par l'esprit. OK, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça, marcher par l'esprit? Est-ce que c'est important de savoir comment? Je peux vous dire, guérissez les malades, ressuscitez les morts. OK, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait? À quelque part, on a pris, pendant bien des prédications, on a prêché aux gens de faire quelque chose, mais on n'a pas dit comment le faire. Et on pense, on s'imagine que tout le monde comprend. Mais c'est faux, ça. On comprend pas tous comment vivre et marcher par l'esprit. Là, je vais vous dire comment. Réalisez que votre puissance est inefficace. Voir Romains 6, 14, 7, 18 à 19. Réalisez votre puissance est inefficace. Si vous réalisez que vous êtes incapable d'avoir la victoire sur la chair par vos forces personnelles, c'est la clé numéro un. Je pourrais dire que 90% des chrétiens sont encore là. Ils pensent encore qu'ils peuvent avoir la force et ils vont faire des efforts pour vivre la victoire. Et autant et aussi longtemps qu'on est dans le piège de l'ennemi, avoir confiance dans notre performance, on n'arrivera jamais à vivre dans la victoire. Jamais. C'est impossible parce que Jésus serait venu mourir sur la croix pour rien si vous pouvez vous aider vous-même. Deuxième chose, réalisez que seule la puissance de Dieu vous procure la liberté. On a vu tantôt qu'on avait la puissance divine, mais on se contente de la puissance charnelle où on essaye de vivre victorieusement. Là, vous allez dire, oui, mais je le sais, ça. Combien d'entre vous, quand vous avez des problèmes, vous voulez vivre une victoire, peu importe, peut-être votre grand péché dans votre vie, c'est de manger trop de gâteaux au chocolat. Et là, vous vous dites, ben, si seulement je cours le marathon, si seulement je fais ci, peut-être si je fais ça, là, je mangerai pas ce gâteau-là. Si je prie davantage, si je demande à tout le monde de jeûner pour moi, si je fais ci, j'écouterai plus de télévision, je ferai plus ci, je ferai plus ça, je serai plus tenté par le gâteau au chocolat. Vous essayez par 10 000 façons, mais autant et aussi longtemps que vous pensez que ces bonnes choses-là que vous voulez faire vous donnent la victoire, vous y arriverez pas. C'est de voir, de garder nos yeux sur la source. La source toujours. Et voici 1 Corinthiens 1, 18. Ça, c'est le verset clé, là. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Ça, c'est la révélation qui a libéré plein de captifs. Vous savez, j'ai eu le privilège de recevoir dans mon bureau des hommes qui étaient pris avec toutes sortes de problèmes. Je pourrais vous dire, j'ai tout entendu, finalement. Toutes les choses qui pourraient vous écœurer, si on veut, là, je les ai entendues dans mon bureau. Et j'ai entendu des témoignages. Il y a un homme, et j'ai demandé la permission, j'ai dit, est-ce que je peux raconter ton histoire, parce que je crois que ça va aider des gens. Je vais vous raconter son histoire. Il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Cet homme-là a été élevé dans une famille où, à chaque samedi soir, la famille écoutait la pornographie en famille. Et il était, depuis sa tendre enfance, il a absorbé toutes ces choses-là, et il était pris. Et il a fait, pendant 7 ans, il est allé voir des psychologues pour se libérer de ce problème-là. À tous les jours, il était dans la pornographie. Et c'est un chrétien, ça faisait des années. Il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Mais pourtant, il dit, je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. Je suis pas capable. Et il allait voir des pasteurs. Puis il dit, mais je veux être libre de cette affaire-là. Qu'est-ce que je peux faire? Et les pasteurs disaient, mais viens à l'église régulièrement. Prie, lis ta Bible. Est-ce que c'est bon de prier, de lire la Bible, d'aller à l'église? Oui, c'est bon. Mais l'affaire est, c'est qu'on prend ces bonnes choses-là et on dit à la personne, ta solution, c'est dans ta performance. Fais, et tu vas être victorieux. Et là, ils essayent d'être libres et ils n'y arrivent pas. Parce que ce n'est pas le chemin que le Saint-Esprit a choisi de nous donner pour être libres. Moi, je peux vous dire, il a fait 7 ans de counseling, ce monsieur-là. Et à tous les jours, et en plus, je peux vous dire, c'était un pédophile. OK? On dit, c'est sérieux, là. Il y en a qui vont dire, on va l'envoyer voir un psychiatre. Peu importe. Il est venu à mon bureau. Une seule rencontre l'a libéré. C'est-tu gloire à moi? Non. Je suis incapable de libérer personne, moi. Je ne suis pas capable de libérer quelqu'un. Mais une rencontre et un verset, c'est ce verset-là. J'ai dit 1 Corinthiens 1,18, j'ai dit, tu vas quitter cette place, tu vas être libre à tout jamais. Tu n'auras plus jamais ce problème-là. Et puis, il m'a regardé, il dit, ah oui? J'ai dit, oui, tu vas être libre aujourd'hui. 1 Corinthiens 1,18, ça dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens vont rire de vous en parlant de la croix. C'est pas important. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu n'as pas de besoin? C'est ta puissance. Elle ne marche pas. C'est la faillite. Ta puissance personnelle, essayez, ça marche pas, ça marchera jamais. Même si je te dis de lire ta Bible 24 heures sur 24, jusqu'à temps que ton visage soit bleu, que tu fasses tu vas forcer, ça ne marchera pas. Parce que Dieu a pas créé toi comme personne pour vivre la victoire sans Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est la puissance de Dieu. Pas, en anglais, on dit willpower. En français, on dit volonté. C'est pas par ta volonté, mais c'est par la puissance de Dieu que tu vas être libre. J'ai dit, ce que tu as besoin de faire, c'est de comprendre ceci. Dans Galates 2:20, jusqu'à verset 21, ça dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, cet homme-là qui était pris avec plein de péchés, on va l'appeler Jean. Non, non, c'est pas un nom. On va l'appeler Arthur. Arthur, j'ai dit, Arthur le pécheur a été crucifié. Celui-là qui est pris avec plein de péchés comme ça, là, il était crucifié, il est mort. Et tu es déconnecté de cette nature pécheresse-là. Tu n'es pas appelé à vivre dans cette nature-là. Et tu n'es pas essayé d'essayer d'avoir la victoire sur cette nature-là parce que Jésus a déjà payé le prix et il t'a déjà affranchi. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de faire? C'est d'avoir ta foi dans l'œuvre de la croix où tu as été libéré il y a 2000 ans. Ça fait 2000 ans que tu es libre et ça fait 7 ans que tu vas voir un psychologue pour essayer d'être libre. Tu n'as pas besoin de payer. En plus, mes services, c'était gratuit. J'ai dit, ça ne coûte rien. Tu as besoin de la puissance de la croix. Mais les gens vont dire, oh, ben ça, c'est théologique. On comprend rien de ça. Mais c'est ça qu'on a besoin. C'est le message le plus important. On a beau parler de 10 000 choses dans nos églises, mais si tout le monde sont pris avec des péchés secrets, ça va pas bien dans nos églises. Puis là, on se dit, ben, on veut vivre la gloire. On veut vivre le réveil. On veut que le Québec soit sauvé. On veut voir des signes, des prodiges, des miracles, des personnes en chaise roulante, on veut les voir guéris instantanément. Mais savez-vous, quand on est tous pris par Satan, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ce qu'on a besoin, c'est de revenir à la croix. Amen. Quand on revient à la croix, c'est là notre place. Et peut-être ça a l'air tellement théologique. Je prie ce matin que vous ne pensez pas que c'est théologique, que vous ne pouvez pas l'appliquer. Si vous avez une tentation, ce que vous avez besoin de voir, c'est que le Joel Spinks pécheur, ou vous, là, la nature pécheresse, elle est morte maintenant. Elle existe encore, mais elle n'est pas la branchée dans le mur. Laissez-la déconnecter. Elle est déconnectée, et maintenant, la nature divine en vous règne sur la nature pécheresse. La nature de Dieu règne. Et à cause de la puissance du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que vous ne pécherez plus jamais, que vous ne tomberez plus jamais, non. Mais vous allez vivre une victoire et vous ne serez plus dans les combats à tous les jours. C'est pas normal que les chrétiens soient constamment dans des combats, savez-vous ça? C'est pas normal. Dieu nous a pas créé comme ça qu'on soit constamment dans des combats et constamment dans la peine. Dieu veut que son Église marche dans la liberté et c'est possible pour nous. Et peut-être ce matin, vous vous dites, ben c'est bien beau, mais je comprends pas. Ben achetez le CD ou écoutez-le sur Internet gratuitement. Réécoutez-le jusqu'à temps que le Seigneur vous donne une révélation que vous, la personne pécheresse, elle est morte. Vous êtes séparés de cette personne-là. Allez pas vous attacher à elle et essayez pas d'être son boss. Non, vous avez déjà la victoire. Amen. Je relis. La prédication de la croix, le message de l'apôtre Paul, il dit, je veux rien savoir d'autre chez vous, sauf Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est parce que c'est par ça que vous êtes libérés. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voulez-vous vivre la puissance de Dieu? Est-ce que vous voulez prier pour quelqu'un qui est malade et les voir guéris? Est-ce que vous voulez avoir la victoire sur votre vie personnelle? On dit, ben, on veut ressusciter des morts. Oui, mais est-ce que tu es capable de même être fidèle avec le Seigneur dans ta vie chrétienne? Si Dieu te demande, avant de ressusciter un mort, d'aller prier pour quelqu'un qui est malade, est-ce que tu vas même le faire? On doit commencer avec les pas numéro un. Et heureusement, Dieu nous commence à la bonne place, dans la puissance de la croix. Amen. Donc, Galates 5, 24, c'est ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Maintenant, OK. Une autre chose qu'on doit faire, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 et verset... Savez-vous, ça vous dérange-t-il? On va lire un petit peu. On va lire un petit peu et le Saint-Esprit va vous toucher. Ça dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans la nature pécheresse afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché ou séparés, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voyez-vous, il est en train de dire, comment ça qu'on peut vivre dans la nature pécheresse, là? Verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Wow! En nouveauté de vie, c'est plus la vieille vie de combat, c'est maintenant une nouvelle vie que vous allez vivre. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, vous avez la vie de la résurrection en dedans de votre esprit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. La nature pécheresse, elle est dans l'impuissance. Pourquoi est-ce qu'on lui donne autant de puissance, autant d'autorité? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, est-ce que vous lisez la même Bible que moi ce matin? Si vous vivez esclaves du péché, c'est parce que la nature charnelle n'a pas été réduite à l'impuissance encore. Car celui qui est mort ou séparé est libre du péché. Vous êtes libre ce matin du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Gloire à Dieu pour ça. Car il est mort et c'est pour le péché ou la nature pécheresse qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11, la clé, encore une fois super importante. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le dernier verset, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Donc, car la nature pécheresse n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. J'espère que vous me suivez ce matin. Amen. Amen. Donc, il y a un seul combat pour l'enfant de Dieu. Le combat, c'est pas vous contre le gâteau de chocolat. Ça, c'est une illusion. Moi, mon problème dans la vie, c'est gâteau au chocolat. Moi, mon problème, c'était l'affaire. En passant, le monsieur, et j'ai eu d'autres hommes aussi qui ont vécu la même victoire, là. Ils m'ont dit les autres fois, là, je suis totalement libre. J'avais tout ça avant, mais maintenant, 6 mois plus tard, j'ai dit, comment ça va, mon frère? Je suis libre. J'ai pas tombé. Avant, là, j'étais pas capable de sauter une journée sans écouter la pornographie. Il dit, maintenant, je suis libre. Ça fait 6 mois, je suis libre. Ben, c'est-tu merveilleux, ça? C'est beaucoup mieux que de forcer, puis d'essayer, puis de chuter. Mais quand on réalise qu'on était déconnecté, on n'est plus esclave, maintenant. Amen. Donc, l'unique combat pour l'enfant de Dieu, Dieu vous donne une chose à faire. Savez-vous c'est quoi? Livrer un combat, c'est le combat de la foi. 1 Timothée 6, 12, ça dit « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Donc, le combat de la foi, Tout est là. Si on peut comprendre que l'ennemi, qu'est-ce qu'il va essayer de faire, c'est de shifter ma foi de sur l'œuvre de Christ et que j'ai été crucifié avec lui et que je suis maintenant ressuscité un homme nouveau. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est enlever votre foi sur l'œuvre de la croix et de la remettre sur vous. Et là, vous allez essayer. Et là, vous allez acheter des livres. Comment maigrir? Comment faire ci? Comment faire ça? Et là, vous allez tout en train d'essayer d'avoir des victoires ici et là. Mais Dieu vous dit une chose. Combat le bon combat de la foi. Votre source pour tout ce que vous avez besoin en Dieu, c'est au niveau de votre foi. Déplacez jamais votre foi de sur l'œuvre de la croix pour la mettre sur d'autres choses. Ben là, j'ai acheté un livre, puis là, il y a 10 formules qui vont me donner la victoire sur telle affaire. Non! La foi en Jésus-Christ, puis qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça votre solution. Ça, on peut pas vendre beaucoup de livres parce que, savez-vous, la foi, on vient de comprendre, là. Hein, je peux pas écrire 10 000 livres sur comment avoir la victoire sur telle affaire. C'est, si on comprend que Jésus a tout accompli pour nous, waouh, là, savez-vous, je suis libre. J'essaie plus d'être libre, je suis libre. J'essaie plus d'avoir la victoire, je suis victorieux. J'ai le victorieux qui vient en moi, j'ai la nature divine qui vient en moi, et en plus, cette vie que j'ai ne mourra jamais. Je m'en vais au ciel avec le Seigneur et gloire à Dieu, l'ennemi peut venir. Puis des fois, peut-être, il réussit à me faire perdre le focus de la croix. Et là, je mets mes yeux sur ma performance et je chute. Mais savez-vous, je peux me repentir et dire, Seigneur, je te demande pardon. Je remets mes yeux sur toi. Je sais que c'est toi l'auteur de ma foi et tu vas m'emmener jusqu'au bout. Amen. Donc, c'est la foi, combat de la foi et le repos. Matthieu 11, 28. Hein? Comment être victorieux? Comment gagner la guerre? Dites aux soldats, allez vous coucher. Ça semble pas beaucoup très logique. Dites aux soldats, tout le monde, allez vous coucher, là, vous allez gagner la victoire. Mais Dieu nous dit, spirituellement, on devrait rentrer dans son repos. Parce que l'œuvre a déjà été accomplie. Écoutez bien, Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ou frustrés, tannés d'essayer. Vous pouvez rajouter ça si vous voulez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comment? Ben, on l'a lu. Croyez, regardez-vous comme mort au péché, offrez-vous à Dieu. Là, vous allez dire, ben c'est super, c'est merveilleux, ça a l'air facile. Mais savez-vous, l'ennemi veut pas vous puissiez vivre cette victoire-là. C'est facile, c'est vrai, savez-vous, pour être sauvé, ça vous prend juste la simplicité d'un enfant. Mais pourtant, combien d'entre nous dans le monde sont sauvés? C'est trop facile. C'est des fois trop facile. On est trop orgueilleux, puis on se dit, ben faut au moins que je fasse telle affaire pour vivre la victoire, hein, ou être sauvé. Donc, les obstacles devant nous. Le rejet de la croix, l'orgueil personnel, dire non, moi je pense qu'il faut que je fasse ci, je fasse ça. Ou carrément l'ignorance. J'ai jamais entendu parler de cette victoire-là. Dans Osée 4:6, elle dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans Luc 14:27, ça dit, quiconque ne porte pas sa croix de la révélation que j'ai partagée, qui n'est pas une révélation nouvelle, c'est la révélation de l'apôtre Paul. C'est aussi simple. Hein? Il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Matthieu 10:38, c'est celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Savez-vous pourquoi? Parce que sans la croix, vous ne vivrez pas dans la victoire. Sans la croix, vous allez vivre frustré toujours et vous allez marcher dans le péché constamment. Matthieu 8:34, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même. Non, j'essaie plus d'être victorieux par moi-même. J'essaie plus de faire ma propre vie, mais je me charge de la croix et de la révélation de la croix et qu'est-ce qu'elle me procure. Une autre chose, c'est déni de la nature pécheresse. Ah, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors, on peut pas être victorieux sur l'ennemi qu'on connaît pas, hein, si on dit qu'elle n'existe pas. Et ça, encore une fois, c'est l'orgueil. Parce qu'on se dit, non, moi, j'ai pas de combat. Mais savez-vous, on retrouve même dans la parole, il y a des textes qui nous disent qu'on doit marcher dans la victoire, évidemment. Hein. Ça fait que si on a les exhortations à marcher dans la victoire, à quelque part, il y a des opportunités de ne pas être victorieux. Vous comprenez? Et l'autre chose, les détours de la foi. Détour, faire en sorte que vous allez devenir indépendant de l'œuvre de la croix. Ça, c'est l'autre chose, c'est de vous faire shifter vos yeux, d'enlever vos yeux sur la bonne source de votre foi. Et il y en a des gens qui disent, on peut réhabiliter des criminels qui ont fait telle ou telle chose, on va leur donner 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de thérapie, on va les réhabiliter et on va avoir le succès. Savez-vous, sans Jésus-Christ, on ne peut pas réhabiliter personne. J'ai eu des gens dans mon bureau, ils ont dit, comment ça, en dans une rencontre avec toi, 10 ans de thérapie, j'ai toutes les réponses là. Mais savez-vous pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. 2 Timothée 3, 16 à 17, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Croyez-vous ça ce matin? Ou quand quelqu'un vit un problème dans nos églises et là on se dit, wow, c'est pas mal un gros péché que tu vis, on va t'envoyer au psychologue. Toi, tu es un moyen gros problème, tu as besoin de l'aide spéciale. Savez-vous, si l'homme de Dieu est parfaitement équipé et accompli à toute bonne œuvre, ça veut dire que la solution pour le pire pécheur, c'est la même solution pour la petite madame religieuse qui a un péché dans sa vie. C'est la même solution. C'est qu'il faut débrancher cette nature-là. On n'a pas besoin d'être un spécialiste dans le débranchement. Ça a été coupé à la croix. Faut informer les gens. « Hey, t'es libre, t'es plus esclave. » Et quand les gens comprennent ça, ils vivent des victoires. J'aimerais ça vous raconter d'autres histoires, mais j'ai des histoires des gens là pris avec les pires choses, mais que, waouh, j'ai vécu plus ces problèmes-là, je ne vis plus ces tentations-là. L'ennemi peut revenir, mais quand, non, je garde mes yeux sur Jésus. Il a déjà payé pour ma victoire. Or, ce matin, je prie que c'était pas un message que vous êtes parti au McDonald's. Je prie que vous avez saisi, parce que c'est une chose, ça peut être abstrait ce matin, puis vous allez dire, ouais, c'est bien beau, c'est bien beau. Mais c'est super important. Une fois qu'on a saisi ça et on réalise qui nous sommes en Christ, wow, on peut vivre des miracles. On peut bâtir ensemble, on peut prêcher l'Évangile, on peut voir des résultats, on peut faire plein de choses pour Dieu et voir le Québec impacté. Mais savez-vous, si on est tous pognés dans nos affaires, ça marche pas. Faut vivre la victoire. Faut pas juste porter le nom d'une église de la victoire. Faut la vivre. Amen. Terminant. Vivons dans notre nature divine. Qui va dire oui ce matin? Je veux vivre dans cette nature-là. Gloire à Dieu. Seigneur, on vient devant toi ce matin. On te remercie, Seigneur, que tu nous as pas laissés dans l'état de l'esclave, mais Seigneur, tu es venu nous libérer. Et Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Alors Seigneur, je crois, j'ose croire cette vérité, Seigneur, et j'ose croire de vivre cette liberté à tous les jours de ma vie. Je te remercie, Seigneur, qu'on n'a pas à vivre ce combat à tous les jours, mais on a simplement à livrer le combat de la foi, de garder notre foi sur toi, nos yeux sur toi, Seigneur. Je te remercie. Merci, Seigneur, que chaque personne ici va quitter cette place encouragée, sachant qu'ils sont déjà victorieux. Et Seigneur, pour ceux qui sont confus, s'il y en a ce matin qui sont confus, qui ont de la misère à comprendre, je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse révéler la vérité de ce qu'on a prêché ce matin. Que chaque personne puisse jouir de cette vie en toi, cette vie dans la liberté, qu'on marche pas la tête basse dans l'humiliation, gêné parce qu'on est pris, mais non, Seigneur, qu'on puisse avoir la tête haute. Et dans la joie, sachant qu'on a été libéré par Jésus. Oh Seigneur, je prie que ce message soit une réalité pour tous et chacun. Oh Seigneur, je prie ce matin que ça soit pas du temps perdu, mais que ça soit du temps qui va porter fruit pour l'éternité. Et je prie que chaque personne ici ce matin puisse prendre ce message et aider des frères et des sœurs qui vivent des combats. Et pour ceux par l'Internet aujourd'hui, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce message si simple, mais en même temps, tellement rare, on l'entend souvent, très rarement prêcher. Je prie aujourd'hui, au nom de Jésus, que vous recevez la révélation du Saint-Esprit dans votre demeure. Si c'est par la radio aujourd'hui, même en train de conduire votre véhicule, au nom de Jésus, je relâche ma foi, que vous recevez votre liberté, que la page est tournée aujourd'hui, vous ne vivez plus sous l'esclavage, mais vous êtes libre en Jésus. Oh, merci Seigneur pour mes frères en Europe, mes frères en Afrique, je relâche ma foi pour eux. Je te remercie pour ton esprit qui fait le travail, pour ta parole qui change des vies. Merci Seigneur pour qu'est-ce que tu fais. Et localement, Seigneur Dieu, je te rends grâce que chaque personne ici reçoit la vérité, qu'ils sont libres en toi. J'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Donnons une main au Seigneur ce matin. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Je vais inviter l'équipe de la louange. Merci Seigneur Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et louer le Seigneur, le remercier pour la vérité, le remercier pour la liberté que nous avons aujourd'hui en Jésus. Amen. Gloire à toi Seigneur Dieu. Tu es digne, Seigneur. Oh, l'ennemi est frustré. L'ennemi ne voulait pas que je prêche un message comme ça. Savez-vous pourquoi ça tape ses nerfs? Ça le dérange dans son royaume. Parce qu'il aime ça avoir des chrétiens tous pognés qui peuvent rien faire. Mais aujourd'hui, on est libre. On est libre comme de l'air. Alléluia. Gloire à Dieu.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.